Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est présidente du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
Bonjour Tony Estanguet.
Bonjour.
Deux vols en l'espace d'une semaine. Hier, la secrétaire générale d'un hôpital de Bobigny s'est fait voler son ordinateur pendant qu'elle faisait ses courses au centre commercial. Il contenait quoi ? Eh ben, des informations confidentielles concernant l'organisation des JO 2024. Et ce, juste après qu'un employé de la mairie de Paris s'est fait voler dans un train deux clés USB et un ordinateur avec des plans de sécurisation des JO. Ça commence à faire mauvais effet, non ?
Qui ne détenait pas d'informations sensibles, ça a été confirmé depuis. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas surréagir à tous les incidents. L'organisation des Jeux, ça va mobiliser des milliers de personnes, donc il va se passer des incidents. Je peux vous dire que voilà, les informations sensibles, elles sont bien protégées, et donc on continue d'avancer.
Donc, ni la semaine dernière, ni hier, il y a d'informations sensibles qui ont fuité.
Bah, écoutez, on verra pour ce qui s'est passé hier. J'ai pas encore toute la confirmation. Ce qui s'est passé la semaine dernière, en tous les cas. On le sait déjà. Il y avait aucune information sensible.
Enjeu colossal, cette fois, en matière de sécurité. Atos, grande entreprise française, se trouve dans une situation financière très grave. Or, c'est votre partenaire en matière d'informatique et en matière de cybersécurité, là, l'enjeu est colossal. Est-ce que vous serez accompagné comme il faut, malgré la déroute d'Atos ?
Oui, bien évidemment, on continue de très bien travailler avec toutes les équipes d'Atos qui organisent...
Parce que là, tous les hauts dirigeants démissionnent les uns après les autres.
Oui, mais les équipes en charge des Jeux n'ont pas démissionné, continuent à être mobilisées. Il y a une vraie expertise, puisque c'est eux qui se sont occupés justement de la cybersécurité des dernières éditions des Jeux. Et donc, on a les meilleurs à ce poste-là et on continue d'avancer ensemble.
Allez, la bonne nouvelle qui vous fait sourire depuis hier soir, c'est l'affiche officielle, les deux affiches officielles des Jeux Olympiques et Paralympiques que Yaël Gauz adore, il les voudrait pour les chambres de ses enfants. Elles sont... c'est des dessins... voilà, c'est foisonnant. Il y a 40 000 petits personnages. C'est un jeune dessinateur qui s'appelle Hugo Gattoni. Si vous nous regardez en vidéo, je vous les montre. Pourquoi ce choix ?
Oui, c'était important pour Paris 2024 d'innover là aussi, d'être un peu en rupture par rapport à ce qui s'est fait sur les dernières éditions des Jeux. Ces affiches officielles, elles racontent l'histoire de Paris 2024. On voit du premier coup d'œil que ces Jeux sont dans la ville. C'est festif, c'est effectivement...
Et il y a 8 mascottes à trouver.
Il y a 8 mascottes à trouver. Il y a bien évidemment la Seine, le Grand Palais. Il y a aussi Marseille et la Marina. Il y a la vague de Tahiti.
Ça ne manque pas d'une image forte. D'une image plus simple mais plus forte, quelque chose qui imprime la mémoire, qui imprime les esprits.
Moi je trouve justement que ce qui est très réussi, c'est une vision artistique des Jeux de Paris 2024 d'Hugo Gattoni, ce qui est très réussi c'est que du premier coup d'œil on retrouve cette ville-stade et c'est vraiment ce qui va rester dans l'histoire de ces Jeux, c'est des Jeux qui sont organisés au centre d'une ville, transformer, mettre du sport dans la ville, c'est vraiment l'enjeu de ces Jeux de Paris 2024.
Allez, page géopolitique, Tony Estanguet, de ces Jeux, y aura-t-il des athlètes russes aux Jeux Olympiques de Paris, c'est de plus en plus tendu. Le comité olympique a suspendu l'organisation olympique russe. Ça prive le sport russe de subventions. Ça n'empêche pas la présence d'athlètes sous bannière blanche. Ils seront là ?
Oui, alors je pense que c'est un sujet qui a été débattu depuis plus d'un an déjà. En fait, vous le savez, comme à chaque édition des Jeux, ce sont les fédérations internationales qui d'abord qualifient les athlètes sport par sport. Dans une très grande majorité de sports, les fédérations internationales ont décidé qu'il n'y aurait pas d'athlètes russes. C'est le cas dans tous les sports collectifs, c'est le cas dans beaucoup de sports individuels. À date, il n'y a qu'une dizaine d'athlètes, là où habituellement la délégation russe, c'est à peu près 500 athlètes qui participent aux Jeux. À date, les fédérations internationales n'ont rendu éligibles qu'une dizaine d'athlètes. Et ensuite, c'est au Comité international olympique et au Comité international paralympique pour les Jeux paralympiques de décider de valider ou non la qualification de ces athlètes.
Une dizaine d'athlètes, ça veut dire que si ces athlètes, par exemple, remportent une compétition, ça sera sans drapeau, sans hymne national, c'est ça ?
Exactement. Donc il y a déjà des sanctions très fortes qui, elles, ont été validées par les deux entités CIO et IPC. Donc
et s'ils se retrouvent face à un athlète ukrainien ?
Ben, ils pourront concourir. Et c'est vrai que ce sont des images qu'on a vues dans le sport régulièrement. Je me souviens des Jeux de Séoul avec la Corée du Sud et la Corée du Nord et des matchs entre ces pays, ces athlètes.
Donc, est-ce qu'un athlète a le droit de ne pas en saluer un autre au terme d'une compétition? Puisque alors, la question s'est posée en escrime très récemment entre une Ukrainienne et une Russe.
Il y a des règles, effectivement, qui sont encore une fois édictées par les fédérations internationales. Dans certains sports, il faut se serrer la main. Dans d'autres, il faut se saluer. Donc, je pense que c'est bien aussi que les athlètes respectent les règles de leur sport. Oui. C'est comme ça qu'ils ont appris leur sport. Et il sera demandé aux Jeux de respecter les règlements.
Et depuis un mois, il y a des députés insoumis et écologistes qui demandent au CIO que les athlètes israéliens participent sous bannière neutre. Donc, exactement les conditions que vous venez de décrire, Tony Estanguet, pour les Russes. En raison, écrivent-ils, des crimes de guerre commis par Israël à Gaza, donc sans drapeau, je le répète, et sans hymne national. Est-ce que ça peut encore changer d'ici les Jeux ?
Encore une fois, je le répète, je pense que c'est bien aussi de respecter celles et ceux qui font le sport international. Des fédérations internationales sont responsables des règlements de leur sport, et le Comité international olympique est responsable de l'organisation des Jeux olympiques.
Ouais.
Et donc nous, on va appliquer ces règlements des fédérations internationales et du CIO. Quand les Jeux ont été organisés il y a 2 ans en Chine, c'est pas les Chinois et le gouvernement chinois qui a pu imposer quel pays pouvait venir participer aux Jeux de la Chine.
Donc la France n'a rien à dire.
Quand ils sont organisés en France, c'est pas la France qui doit décider de quel pays. Ce sont des athlètes, encore une fois, c'est important pour eux et de leur rappeler, qui s'entraînent pendant des dizaines d'années pour pouvoir participer aux Jeux. Ils se qualifient dans leur fédération internationale. Et si le Comité international olympique
estime que les athlètes ont
respecté les règlements, ils pourront participer.
Bon, Tony Estanguet, la dernière fois que vous êtes venu sur France Inter, vous étiez très sûr de vous. Kylian Mbappé allait participer aux Jeux. Entre-temps, celui-ci annonce son départ du PSG. Qu'est-ce qui vous dit que son futur club, le Real de Madrid par exemple, va l'autoriser à jouer les Jeux ?
Alors moi, je reprends les déclarations de Kylian Mbappé, qui avant qu'il annonce même de partir, et depuis qu'il annonçait qu'il voulait partir, a dit qu'il souhaitait, qu'il rêvait de participer aux Jeux. Donc c'est tout le mal que je lui souhaite.
Vous pensez que ça fait partie de sa négociation avec le Real ?
Ah, je n'en sais rien, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais apparemment il répète souvent que ça serait vraiment un objectif pour lui, un rêve de participer à ces Jeux, donc... Nous, c'est aussi une fierté de pouvoir mettre en valeur ces grands athlètes. On va avoir des Kylian Mbappé. Antoine Griezmann a dit aussi qu'il souhaitait participer.
Ah oui, mais son club n'a pas donné sa réponse.
Non, mais c'est la particularité de ce sport. Mais on aura aussi Antoine Dupont. Vous l'avez vu le week-end dernier, qui a gagné cette belle médaille d'or avec le rugby à 7. Ou un Victor Wembanyama également en basket, qui continue de nous régaler. Donc, les grands champions français internationaux seront présents aux Jeux de Paris.
L'inquiétude monte en matière de triathlon. Nage, course, cycliste. D'accord? L'épreuve de nage est prévue en eau libre, dans la Seine. Problème, les experts disent que c'est sale, les flux sont difficiles à maîtriser. Est-ce qu'on pourra se baigner dans la Seine? Est-ce que l'épreuve de triathlon ne va pas se transformer en duathlon, c'est-à-dire pas une discipline olympique? Bref, comment vous voyez les choses?
Là aussi, moi je trouve que c'est formidable que grâce à la dynamique des Jeux, on ait réussi à enclencher toute une mécanique qui fait que, quoi qu'il arrive, la qualité de l'eau de la Seine sera de bien meilleure qualité après les Jeux qu'avant. Et au cours des 3 dernières années, il y a plus d'une dizaine de milliers d'habitations et d'usines qui ont pu être raccordées aux égouts parce qu'elles rejetaient tous leurs déchets dans la Seine, ce qui normalement ne se fait pas. Et effectivement, aujourd'hui, il y a des installations, un nouveau bassin justement qui va pouvoir collectionner les eaux usées.
Alors, nage en eau libre ou pas nage en eau libre dans la Seine ?
Nage dans la Seine. Ça a déjà été le cas l'été dernier lors du test event sur la moitié des compétitions. Depuis l'été dernier et les Jeux qui arrivent, encore une fois, les installations seront de meilleure qualité avec de nouveaux bassins.
Donc il y aura du triathlon.
Bien.
Voilà. Alors, le village olympique vient juste d'être, vous l'avez livré, vous l'avez inauguré, 82 bâtiments, 3000 appartements, 7 ans de travaux, 330 000 mètres carrés implantés sur 3 communes. Et puis, il y a quelque chose qui a retenu l'attention de tout le monde, ce sont ces lits en carton recyclable. Et là, quand même, on se demande, est-ce que les basketteurs sont-ils condamnés à dormir avec les pieds qui dépassent du lit ? Est-ce que les judokas ont un espoir de pouvoir se retourner dans leur lit en carton? Est-ce que le couchage ne risque pas de s'effondrer sous le poids d'un rugbyman ou d'un haltérophile?
Ah, qu'est-ce qu'on ne fait plus aujourd'hui? Et c'est vrai qu'on a été séduit par cette technologie qui a déjà été utilisée sur les derniers Jeux de Tokyo.
Vous les avez testés, les livres?
Je les ai testés, effectivement. Et c'est vrai qu'ils sont très confortables. Et par rapport à la chronique précédente, c'est aussi un formidable moyen de recycler, d'avoir de garantir une deuxième vie.
Non, mais Wembanyama, concrètement, comment il fait pour dormir là-dedans?
C'est fait pour que les basketteurs, les volleyeurs, les handballeurs.
Il fait plus de 2 mètres, Wembanyama. Ouais, il fait plus de 2 mètres.
Il y a des petits rallonges. d'orange qui sont prévues.
Ah, bah voilà.
Voilà, donc bien voilà, que chaque nous lit puisse accueillir les athlètes.
Attends le temps imparti. Donc vous échappez à la question sur les préservatifs, ça sera pour la prochaine fois.
Il y en aura, c'est très
Tony Estanguet.
Et merci Sonia de Villers.